célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Départ, exil, passage, déracinement. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons décrire l'impact de la migration sur la santé des femmes, expliquer les risques et les vulnérabilités supplémentaires qu'implique le parcours migratoire pour ces femmes et quelle prise en charge spécifique est susceptible d'améliorer leur situation, tant du point de vue physique que psychologique. Solitude, impasse administrative, mauvais traitement, violence sexuelle, le parcours de ces femmes migrantes se révèle souvent très éloignée de l'idée qu'elle s'en était faite avant d'entamer le périple. Désillusions, traumatismes, blessures intimes, perte de repères, avec la difficulté de demander de l'aide et la méconnaissance des recours, des procédures, des structures sanitaires et sociales. Et pour celles qui n'ont pas de papier, ces difficultés sont accentuées par un sentiment de crainte permanente. Des médecins, des associations réfléchissent et agissent pour améliorer l'accès aux soins et l'accompagnement et pour qu'après avoir été menacées, rabaissées, exposées ou maltraitées, ces femmes puissent être écoutées, soignées, comprises et commencent à reprendre espoir, regagner en autonomie pour envisager un jour de se reconstruire. Et demain, rendez-vous consacré à la santé des femmes migrantes qui aura pour cadre l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne, CHU, où vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales. Professeur Olivier Bouchaud, bonjour.
Bonjour.
Sur place, des exposés, des débats, des ateliers. Parmi les associations présentes, la vôtre, Rose Ngekeng, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère en santé sexuelle et droits humains, animatrice au sein de l'association Ikambere qui soutient les femmes vivant avec le VIH-Sida. Avec nous en studio également, Mariama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ivoirienne en France depuis février 2017, c'est bien cela ?
Après 2016,
après un parcours de près d'une année. Mmh. Et nous serons tout à l'heure en ligne de Conakry avec le docteur Chaïkou Baldé, médecin de formation, psychothérapeute en Guinée-Conakry et vice-président de l'association guinéenne des psychologues cliniciens. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et bien sûr, pour vos témoignages, vos questions, le numéro de Priorité Santé, 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Vulnérabilité, c'est le mot qui vient à l'esprit lorsque l'on évoque ces parcours, le sort de ces femmes migrantes. Vulnérabilité, en même temps, capacité de résistance pour dépasser certaines épreuves. Professeur Olivier Bouchaud, comment se traduit cette vulnérabilité en termes de santé pour les femmes migrantes ?
Alors, cette vulnérabilité, elle se traduit à la fois sur des aspects organiques, mais qui ne seront pas très différents de ce qu'un homme peut ressentir ou peut exprimer, puisque les facteurs d'exposition, que ce soit aux maladies infectieuses ou aux maladies non infectieuses, sont à peu près les mêmes, en dehors évidemment de tout ce qui est pathologie gynécologique et gynéco-obstétricale, parce qu'il ne faut pas oublier que certaines femmes, dans leur parcours de migration qui est parfois très long, il leur arrive d'être enceinte en cours de parcours et d'accoucher en cours de parcours, avec tout ce qu'on peut imaginer comme complexité dans les situations dans lesquelles elles se situent. Par contre, au niveau des troubles psychiques et des troubles mentaux, voire des troubles psychiatriques, parce que les traumatismes psychiques endurés pendant le parcours de migration peuvent être tellement profonds et tellement violents que ça peut entraîner des vraies maladies psychiatriques. Là, il y a une vulnérabilité évidente, supplémentaire chez les femmes.
Est-ce que la situation est d'actualité, professeur Olivier Bouchaud ? Est-ce que la situation des femmes migrantes aujourd'hui est différente de celle que l'on pouvait connaître il y a une dizaine ou une vingtaine d'années ?
Là, c'est absolument évident. Alors, ce serait un petit peu long de reprendre tout l'historique des migrations, mais quand on reprend les migrations de ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, donc en gros après la Deuxième Guerre mondiale, c'était une migration extrêmement simple, extrêmement facile, il n'y avait pas besoin de visa, il n'y avait pas besoin de papier, on venait, on repartait. Et puis après les chocs pétroliers, ça s'est beaucoup durci, et puis plus on va dans le temps et plus on voit que les choses se durcissent, alors que les conditions de vie dans les pays d'origine deviennent de plus en plus difficiles, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de migration. Ça, je pense qu'il faut que tout le monde doit bien avoir présent à l'esprit, comme disait un de mes maîtres, le professeur Gentilini, les gens heureux ne migrent pas. Donc quand les migrations se font, c'est parce qu'il y a un impératif, quel qu'il soit.
Et d'ailleurs, au niveau de la terminologie, en général, on parle d'expatriation. Quand on va, par exemple, travailler, on va dire, pour son propre bien-être ou pour son confort matériel, on ne parle pas, souvent, on ne parle pas de migrants. C'est pas la même terminologie, simplement, en français.
Absolument. Et donc, dans ce cas des migrations forcées, quand elles se font dans des chemins illégaux, même si le terme d'illégal, pour moi, n'a pas du tout la même résonance que pour certains, et notamment sur le versant administratif, il y a des traumatismes absolument terribles que je crois même on a de la peine à imaginer quand on n'est pas plongé là-dedans et qui très sincèrement font douter de l'humanité.
Et justement, quand on voit des personnes, des associatifs qui travaillent avec ces personnes qui ont vécu ce parcours migratoire, il faut le dire, hein, parfois c'est chaotique, on écoute les témoignages, c'est à la limite, on a du mal à écouter ces témoignages, c'est poignant, c'est au-delà, c'est inhumain, on peut dire des fois le terme. Rose Ngeking, ça fait changer la vision des choses sans tomber du tout dans une vision victimaire. Ces femmes qui arrivent dans votre association, vous les trouvez dans quel état psychologique?
Comme l'a dit si bien Dr Bouchaud, ces femmes arrivent à Ekambéré dans un état de déchéance psychologique, physique vraiment très très avancé. Elles arrivent dans un état d'agression pendant qu'on les reçoit, parce que quand elles arrivent, c'est le premier entretien avec l'assistant social, nous sentons en elles une certaine forme d'agressivité. Le fait qu'elles, pendant ce parcours migratoire, comme l'a dit si bien Dr Bouchaud, où elles subissent des exactions sexuelles, des agressions de toutes sortes, elles arrivent ayant perdu leur estime de soi. Des personnes qui, dans leur tête, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. En plus de ces exactions sexuelles qu'elles ont subies pendant leur parcours migratoire, elles ont été prises au piège du prédateur, que je peux bien dire, le VIH-SIDA, parce que Ekambéré accompagne les femmes infectées par le VIH.
On va en reparler au cours de cette émission, justement, okay. Cette dimension particulière et cette vulnérabilité particulière. Parcours, on le disait, éprouvant et même parfois très dangereux. Hein. Mariama, vous êtes sur ce plateau de Priorité Santé pour témoigner. Mmh. Une année entre votre départ de Côte d'Ivoire et votre arrivée en France. Une année, on va pas dire de voyage, on va dire une année d'épreuve. Déjà, pourquoi ce départ de Côte d'Ivoire?
Bon, moi, mon départ de Côte d'Ivoire, là, j'étais mariée en mariage de famille à l'âge de 15 ans. Là, j'étais forcée de me donner en mariage à l'âge de 15 ans. J'ai fait deux grossesses sur trois enfants. Bon, mon mari est décédé. Quand mon mari est décédé, je ne voulais pas, mais avec les enfants, j'ai fini par accepter parce que j'ai eu déjà des enfants avec lui. Donc, mais Dieu a fait que mon mari est décédé. Quand mon mari est décédé, les parents m'obligent encore de me marier avec le frère de mon mari. Là, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mon oncle dit, mais si je ne me marie pas à le frère de mon mari, ce n'est pas moi qui va diviser la famille. En ce temps, j'avais déjà perdu mon père. Donc, ils ont décidé de chasser ma mère. Tant que moi, je ne me marie pas à ce dernier, ma mère ne va pas rester dans la famille. Donc, moi, j'ai dit non, je ne peux pas me marier à le frère de mon mari parce que le vivant de mon mari, on ne s'entendait pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il m'aime, c'est pour me faire du mal, je ne sais pas. Non, je ne peux pas me marier à lui. On dit, bon, comme c'est ainsi, c'est ils ont dit que non, que c'est moi, je vais diviser la famille. Donc, moi, d'aller où je veux, ou soit je me marie à mon beau-frère.
Et donc, vous avez quitté votre domicile, qui était plus conjugal, puisque votre mari, on l'a compris, était décédé. Oui. Vous avez pris la fuite, d'abord en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que vous avez pris la décision de quitter le pays?
Maintenant, quand on m'a dit ça, ils m'ont attaché, à chaque fois on me frappe. Bon, moi j'ai dit, comme c'est ainsi, je ne vais pas rester avec mes enfants, je vais mourir pour laisser mes enfants. Bon, comme c'est ainsi, je vais aller chez une tante. Là, c'était la petite sœur de mon papa. Je suis allée chez elle, il y a fait 2 semaines. Le même nom qu'est venu, que je ne peux pas rester là-bas, elle aussi, elle a eu peur. Tout le monde dit non, que mon oncle, il était sorcier. Donc, elle a eu peur. Elle dit que non, tu ne peux pas rester ici parce qu'il me menace. Il me menace, tu ne peux pas rester ici. Cherche où tu peux aller. En ce moment, j'avais connu une fille dans le quartier sans savoir qu'elle était lesbienne. Sincèrement dit, j'ai expliqué mon problème à la fille. Elle dit non, bon, il n'y a pas de problème, tu peux venir vivre avec moi pendant que tu vas te retrouver. Donc, quand je vivais avec elle, c'est là que j'ai su que non, elle était lesbienne, mais je ne sais pas où aller. Je suis restée avec elle. Je me suis habituée à son
mode de vie.
À son mode de vie. Donc, on est resté. Quand les parents ont su ça encore, ils sont venus derrière moi encore. Ils ont entendu ça de bouche à l'oreille. Ils sont venus derrière moi. Okay, moi, je vais gâter le nom de la famille. Mm-hmm. Donc, moi, je ne peux pas rester. C'est pourquoi, moi, j'ai refusé de me marier à le petit frère de mon mari. Mm-mm. C'est ce que je voulais faire. J'ai dit non, je ne savais pas. On dit non, non, non. Donc, ils ont envoyé des cousins, des frères pour venir m'attraper un nu. Aussi, ils ont pris les amis. Ils m'ont violé. Bon, ils m'ont attrapé. Ils m'ont envoyé chez les parents. Arrivé chez les parents, ils m'ont attaché. Toutes ces blessures, même sur mon corps, bon, sur mon dos, il y a des traces. Bon, j'étais frappée, j'étais attachée. Que de dire, ou soit je me... D'ailleurs, même que le petit frère de mon mari ne va plus m'accepter, parce que voilà, la route que j'ai prise, ça ne fait pas digne de nos familles. Donc, eux préfèrent que moi je meure pour ne pas gâter le nom de la famille. Donc, quand eux tous sont sortis, il y avait une fille chez ma tante là-bas. Elle a ouvert la porte un peu. Elle m'a aidée à m'enfuir. Donc, quand je suis sortie, je suis allée directement chez ma camarade là encore. Elle était burkinabé. Elle dit, bon, elle aussi, elle ne peut pas rester. Parce que de la manière ça vient là, ça peut devenir autre chose demain où on ne s'entend pas. Donc, elle a dit, bon, comme c'est ainsi, bon, elle va rentrer au Burkina. Moi, je dis, bon, moi, je ne sais pas rester parce que pour moi, c'est plus grave que pour toi. Donc, j'étais sûre qu'on est parti au Burkina. Donc, au Burkina aussi, moi, j'ai eu peur, sincèrement dit, j'ai eu peur parce que ses parents vont savoir encore que voilà ce qui se passe, ça va devenir autre problème. Bon, moi, j'ai dit à ma camarade que, bon, comme c'est ainsi, moi, je vais quitter chez vous. Je vais m'approcher vers Niger ou bien Mali. En tout cas, j'ai...
Vous remontez au nord. On va tout à l'heure poursuivre justement ce récit de ce périple. Mais ce que vous disiez, professeur Olivier Bouchot, est illustré d'emblée. On ne fuit pas par confort, on fuit par obligation. Là, il y a la réputation, il y a la famille. Ça tourne même au crime, au viol collectif. C'est un récit absolument épouvantable avec des questions sur la prise en charge. Ce récit, comment il vient aux oreilles des médecins, des psychiatres, du personnel hospitalier? Est-ce que ces femmes racontent ce genre de traumatisme?
Alors, on ne peut pas faire de cas général, mais comme je le disais tout à l'heure, il est assez rare que les femmes arrivent à le raconter spontanément. Ce qui se passe souvent nous on est dans une situation un peu particulière parce que ces femmes qu'on voit, elles viennent parce qu'elles ont une maladie infectieuse, puisque moi je m'occupe d'un service d'infectiologie et de médecine tropicale, et donc elles viennent pas pour cette raison-là. Elles ont un problème infectieux, ça, qui peut être une infection urinaire, qui peut être quelque chose d'absolument banal, ou un paludisme, ou quelque chose de banal, si on peut dire. Et puis on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, indépendamment de leur pathologie, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et c'est là où il faut avoir la finesse ou l'intuition qu'il y a un traumatisme, sachant que quand on apprend que ces femmes sont arrivées en France depuis peu de temps et qu'elles sont venues par les voies clandestines à travers l'Afrique, on sait que de toute façon il y a des traumatismes. C'est extrêmement difficile d'imaginer, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais c'est extrêmement difficile d'imaginer qu'une migration...
D'en sortir indemne.
Voilà, d'être passé à travers l'Afrique sans avoir aucun traumatisme. Et donc là, avec beaucoup de patience, parce qu'il ne s'agit pas de mettre, d'y aller avec des gros sabots, si je puis dire. On essaie d'approcher, mais très souvent, ces femmes-là sont tellement, tellement profondément bouleversées qu'elles ont tiré une espèce de rideau de fer qui fait que leur souffrance intérieure est très puissante, mais qu'elle est incapable à verbaliser.
Mais cette carapace, c'est aussi une protection pour elle.
C'est aussi une protection, mais c'est une protection un peu dangereuse. Parce que le monde, le mal à l'intérieur se développe. Et donc, à un moment, il faut absolument casser ce rideau de fer. C'est là où on a besoin des associations, c'est là où on a besoin des psychologues, parfois des psychiatres, pour fissurer ce rideau et pour que le mal puisse être au moins exprimé. Et une fois que le mal est exprimé, on peut travailler dessus pour arriver à redonner cette dignité dont parlait Rose tout à l'heure aux femmes, pour leur faire comprendre que l'humiliation dans laquelle elles ont été traînées à plusieurs reprises, c'est un passage qu'elles doivent laisser derrière elles, et elles peuvent se reconstruire après. Et c'est pour ça que dans la journée dont vous parliez tout à l'heure, là, qu'on organise à l'hôpital Avicenne sur la santé des femmes, on a parlé de vulnérabilité, mais on a aussi parlé de ressources. Et ça sera les deux pendants qui vont guider, qui vont être le fil rouge de cette journée, parce que les femmes ont aussi cette capacité de rebondir, peut-être plus que les hommes, et heureusement qu'elles ont ça pour s'en sortir.
Il faut du courage, hein. Rose Ngekeng, justement, cette dimension dont on a esquissé les premières lignes là, cette confiance, comment elle se tisse entre ces femmes, justement, pour faire sortir cette souffrance, cette douleur de la carapace?
Bien, comme je l'ai dit en amont, Ikambere a trois axes d'action que je dois vraiment préciser. Il y a l'action d'insertion professionnelle, sociale et santé. Et accueil, je parle du social. Au niveau de l'accueil, quand ces femmes sont orientées à Ikambere, ça peut être par le biais des hôpitaux, par le biais des associations, de bouche à oreille, c'est-à-dire de père au père. Quand elles arrivent à Ikambere, comme je l'ai dit, dans un état de déchéance psychologique et physique vraiment très, très, très avancé, elles sont accueillies d'abord par l'assistance sociale qui identifie ses besoins, parce qu'auprès de l'assistance sociale, les choses se disent à cœur ouvert. Parce que bon, quand elles arrivent ici, on parle de l'assistance sociale, elle peut bien t'accompagner, elle t'écoute. Et après avoir été écoutée par l'assistance sociale, nous avions notre cafette où on la dirige.
La cafétéria, un espace d'échange et en même temps où on mange, tout simplement.
Oui, de convivialité. Parce que Ikambere, dans sa mission, offre tous les jours du lundi au vendredi un repas aux femmes. Parce que nombreuses sont les sans domicile fixe, nombreuses sont dans la précarité, elles n'ont rien à manger. Et c'est dans cet espace de convivialité à la cafette où elles rencontrent ses pères, et en écoutant l'expérience des unes et des autres, les parcours des unes et des autres, elles se disent, mais tiens, donc je ne suis pas la seule. Il y a quand même des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu, comme l'histoire de
Mariama.
De Mariama, il y a nombreuses qui arrivent à Ikambere ayant traversé, ayant vécu tous ces traumatismes comme Mariama. Et en écoutant les unes qui ont quelque part, en côtoyant leur père à Ikambere, ont un peu accepté la situation, elle se dit, tiens, c'est vrai, j'ai eu ces traumatismes, j'ai été infectée par le VIH. Mais je peux prendre ma vie en main. Et c'est l'un des objectifs d'Ikambere, celle de briser l'isolement auquel ces femmes sont parfois confrontées et les amener à être actrices de leur destin.
Sans naïveté, Rose Ngekeng, quand même, quand on entend qu'il y a autant de similitudes entre ces parcours, c'est absolument épouvantable, parce que chacun de ces parcours en soi est impossible à comprendre. Et en fait, c'est le lot commun de ces femmes. C'est ça qui est difficile à saisir, à appréhender. C'est épouvantable. Et pourtant, je vais mettre des guillemets énormes, c'est normal pour ces femmes quand elles le font, parce que c'est systématique. On n'arrive pas à comprendre ce systématisme.
Oui, quand on les écoute, certes, on n'est pas là pour juger. Elles ont pris la décision de quitter leur pays d'origine et aller en France. Elles sont en face de nous. Il y a deux types de femmes. Il y a celle qui vient pour la migration thérapeutique et celle qui vient pour la migration économique. Et il y a d'autres qui, au départ de leur pays d'origine, elles ont été infectées. Elles le savaient très bien qu'elles sont infectées par le VIH et qu'elles vont en Europe pour les soins de qualité. Il y a celles qui sont infectées, qui contractent le VIH pendant leur parcours migratoire. Et il y a d'autres qui arrivent en France avant d'être atteints du VIH.
Et c'est ce qu'on a vu dans une étude du mois de janvier de la revue The Lancet, professeur Bouchot, qui pointait justement le fait et balayait une idée reçue qui disait que ces femmes arrivaient essentiellement porteuses du VIH. Et en fait, non, un certain nombre sont contaminées ici parce que le calvaire ne s'arrête pas sur le parcours migratoire, notamment en matière de faveurs sexuelles. Ça continue quand elles arrivent en France. Elles doivent monnayer un logement, elles doivent monnayer de la nourriture. Et là encore, il y a un risque de contamination.
Absolument. Et je pense qu'il faut être bien conscient. À l'instant, Rose a fait allusion aux migrations thérapeutiques. Ça existe, mais c'est un nombre extrêmement limité. La majorité des hommes et des femmes, et là on parle des femmes, qui migrent pour des raisons totalement différentes, qui ne sont pas liées à des problèmes de santé. Et pour ce qui est du VIH, mais évidemment tout le monde n'est pas concerné par le VIH, et heureusement, la plupart découvrent leur infection par le VIH quand elles arrivent en France. Et ce que vous venez de signaler est extrêmement important, parce que c'est une découverte tout à fait récente d'une étude qui s'appelle Parcours, qui est une étude extrêmement riche, et qui a montré que près de la moitié des découvertes d'infections par le VIH chez des migrants africains, migrants et migrantes, mais là parlons des migrantes, ce sont des infections qui ont eu lieu en France. Ce qui veut donc dire que ces femmes qui ont vécu des parcours extrêmement traumatisants, arrivant en France, pensent espérer trouver un havre de paix et au moins une protection, eh bien non, les violences continuent alors qu'elles sont arrivées en France. Et ça, c'est extrêmement interrogeant sur la capacité de notre société à accueillir ce type de situation. Et il y a une deuxième violence que Mariama a évoquée tout à l'heure, et je voudrais insister là-dessus, c'est quand on a vécu toutes les humiliations qu'on a évoquées tout à l'heure, qu'on arrive en France, qu'on n'a pas de papier, et que ça dure, et que des mois, et parfois des années après, on n'a toujours pas de papier, ce sentiment d'avoir été réduit à rien par les humiliations, des violences du parcours, et de toujours n'être rien, parce que quand on n'a pas de papier, on n'existe pas, est une violence passive, si je puis dire, pas brutale, mais est une violence aussi extrêmement forte. Et ça, je pense, alors je sais que ça touche à des problématiques politiques et politiciennes qui nous dépassent, et on n'est pas là pour parler de ça, mais je pense qu'il faudrait que nos dirigeants prennent conscience de cette violence qu'on inflige en plus à ces hommes et à ces femmes qui sont arrivés en France.
Mais ça a une dimension sanitaire dans la mesure où cela peut retarder la prise en charge, cela peut retarder aussi par des craintes, hein, simplement en allant à l'hôpital,
absolument,
d'être repéré, d'aller se faire dépister, d'aller se faire soigner, professeur Bouchot.
Absolument. Et quand on vit, quand on est imprégné par cette humiliation et par ce sentiment de n'être rien, la santé passe en troisième, quatrième position. Et même quand on a des vrais problèmes organiques, si je puis dire, et a fortiori des problèmes psychiques, on consulte pas à temps, on attend vraiment la dernière extrémité, sachant que par ailleurs, on a de telles urgences au quotidien pour se loger, pour se nourrir, etc., que
ça passe après.
Ça passe après, et du coup, les problèmes de santé sont beaucoup plus graves que s'ils étaient pris en charge dès l'aval.
Mariama, tout à l'heure, on parlait de cette difficulté de parler de tout ce qui est arrivé. Vous y arrivez. Comment, justement, quel chemin vous avez fait pour réussir à dire ces choses qui vous est arrivé non seulement en Côte d'Ivoire, mais après, pendant le cheminement, vous aviez parlé traversé du Burkina, du Niger. Vous êtes passé par la Libye ensuite.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé en Libye?
Bon, en Libye, là, c'était plus grave parce que on a été emprisonné en Libye dans la mer des 7 gendarmes. On était 12 dans nos groupes. Bon, parmi nos 12, on y sont allés nous mettre dans une prison. Bon, c'est pas là que j'ai regretté d'avoir quitté mon pays parce que le fait de refuser un homme, il y a 10 garçons qui vont venir coucher avec toi au cours de la route. Donc, par là, sincèrement dit, j'ai regretté parce que j'étais dépassée.
Vous avez eu le sentiment, finalement, que ce qui vous est arrivé sur ce parcours migratoire, c'était pire que la menace qui pesait sur vous dans votre pays, dans votre maison.
Oui.
Et quand est-ce que vous avez commencé à en parler? Vous avez des amis à qui vous pouvez en parler ici? Vous avez quelqu'un à qui en parler, justement, pour essayer de déposer votre fardeau, ce gros bagage de tout ce qui vous est arrivé?
Là, je n'avais pas courage d'en parler, mais avec la psychologue, à Vicenne,
À l'hôpital où exerce le professeur Bouchot.
Avec elle, là, ça m'a soulagée, sincèrement dit. Parce que elle me demandait. En tout cas, elle m'a soulagée. Sinon, j'étais perdue.
Justement, ces femmes perdues, Rose Nguyen-Keng, repoussoir administratif, on en parlait tout à l'heure avec le professeur Bouchot, prise en charge psychologique. Il faut vraiment appréhender ces situations, ces parcours de vie dans une globalité. C'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui prend du temps.
Oui, c'est quelque chose qui prend du temps. Aujourd'hui, des femmes qui arrivent, qui sont orientées à Ikambéré, nombreuses sont des sans-papiers déjà. Et pour obtenir un titre de séjour, il faut avoir fait plusieurs mois sur le territoire pour l'obtenir. Et cela rend les femmes encore davantage plus précaires. Et Ikambéré, qu'est-ce que nous faisons? En attendant que ces femmes obtiennent leur titre de séjour, nous avions une équipe pluridisciplinaire. En semaine, on les offre déjà, comme je l'ai dit, un repas tous les midis, du lundi au vendredi. Nous avions la socio-esthéticienne qui est là le mardi pour redonner à ces femmes leur estime de soi, parce que nombreuses ont perdu cette estime de soi et se disent que ça ne vaut pas la peine. Alors, par des soins de main, de visage et les échanges avec celles qui sont en atelier, ça permet à ces femmes de reconquérir leur estime de soi. Nous avions le coach de sport qui est là le mercredi et le vendredi. Parce qu'on le sait très bien, le sport, les exercices physiques pour une personne qui vit avec une pathologie chronique, ça améliore son état de santé. Et il y a la diététicienne qui est là, deux mercredis et deux mardis par mois, pour donner des conseils nutritionnels aux femmes. Nous le savons très bien, nous venons de l'Afrique parce que Ikambéré n'accompagne pas seulement des femmes d'origine subsaharienne, ben ça à 75%, je peux le dire ainsi, mais la porte d'Ikambéré est ouverte à toutes les femmes qui sont, toutes les femmes infectées par le VIH. Alors la diététicienne est là déjà pour donner un certain nombre de conseils, pour amener les femmes à savoir bien manger, parce que on le sait très bien, docteur Bouchot est là. Aujourd'hui, les femmes qui vivent avec le VIH, la personne qui vit avec le VIH, ne décède pas seulement au-dessus de son VIH, mais des comorbidités tout autour. Nous avions les obésités, nous avions les problèmes de tension artérielle, nous avions les problèmes de cholestérol, et elle est là pour nous aider à bien manger pour ne pas développer ce genre de maladie. Et en plus, nous ne devons pas seulement parler du repas, mais nous sollicitons aussi à titre bénévole des médecins dans les hôpitaux où nous intervenons. Nous faisons la permanence hospitalière parce que Ikambéré intervient dans plus d'une dizaine d'hôpitaux. Nous les sollicitons à titre bénévole de venir informer les femmes par rapport à cette maladie, par rapport au traitement. Docteur Bouchot a déjà été à Ikambéré une fois depuis, je dis merci docteur Bouchot, de donner certain nombre d'informations aux femmes, leur amener à faire face à la maladie et de prendre soin d'elles. Et en plus de cela, je suis la en santé sexuelle, je suis auprès d'elle tout le temps. Je fais avec ces femmes ce qu'on appelle la prévention secondaire, dont le but ou l'objectif de cette activité consiste juste à leur donner un certain nombre d'informations qui va leur permettre de ne pas aggraver leur état de santé, de ne pas se retrouver dans une situation de co-infection ou de contracter une infection sexuellement transmissible. Bref, avec elle, on échange sur les informations de base, le basique, parce que je ne suis pas médecin, mais on leur donne les informations sur tous les modes de contamination, de transmission du VIH, et aussi nous sollicitons les patients experts pour parler de leur expérience.
Professeur Olivier Bouchot, infectiologue, tout à l'heure, vous parliez justement de cette, en quelque sorte, enquête qui fait partie de la consultation, interroger la patiente pour savoir s'il y a derrière des ressorts psychologiques. Justement, est-ce que systématiquement vous orientez vers un spécialiste de santé mentale quand il y a ce type de parcours?
Alors, oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très très rarement verbalisé spontanément. Ce qui est très important, c'est que quand on parle avec les patients, quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque et qu'on se doute que c'est lié au psychotraumatisme du parcours migratoire, on essaie de percevoir si ce rideau de fer dont je parlais tout à l'heure est déjà un petit peu fissuré et que la femme va pouvoir s'exprimer. Et si c'est le cas, On sollicite la psychologue, on a la chance d'avoir dans le service une psychologue qui a beaucoup d'expérience, qui connaît parfaitement bien la problématique et l'environnement des migrants, ce qui n'est pas vrai dans tous les services, parce que il faut avoir cette expérience et cette sensibilité pour pouvoir arriver petit à petit à amener les femmes à pouvoir s'exprimer. Dans certains cas, on a même besoin d'avoir recours à la dimension psychiatrique, c'est-à-dire avoir recours à des consultations d'ethnopsychiatrie, quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus complexe et beaucoup plus spécialisé, si je puis dire, pour arriver à ce que les choses puissent sortir, et notamment quand cette espèce de mal qui ronge ces femmes de l'intérieur a entraîné des dégâts tellement profonds que ça se manifeste ou ça se masque par des troubles psychiatriques. Et c'est là où c'est parfois très difficile de faire comprendre aux soignants que des attitudes un peu agressives, tout à l'heure Rose faisait allusion à cette forme d'expression par l'agressivité, n'est pas de l'agressivité, basique, de gens désagréables ou de mauvaise foi, ce qui peut être le premier réflexe de certains soignants. Cette agressivité, c'est un symptôme qui cache cette espèce de blessure profonde. Et quand on arrive à toucher au problème, souvent les femmes d'ailleurs s'effondrent, parce que cette agressivité, ça les protégeait, elles s'effondrent et ensuite on les reconstruit et on trouve derrière des femmes adorable, tout à fait normal, entre guillemets, l'agressivité n'étant, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'un symptôme. Mais ça, il faut le connaître et il faut voir ce qui se cache derrière ce symptôme.
Vous restez avec nous, on va tout de suite partir pour la Guinée.
Priorité santé sur RFI.
Et en ligne de Conakry, on retrouve le docteur Chaïkou Baldé. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin de formation, psychothérapeute. Alors vous prenez en charge des migrantes qui sont revenues au pays après un échec migratoire. Elles rentrent à la maison. Justement, quel est le parcours de ces femmes guinéennes qui partent vers l'Europe et qui rentrent ensuite?
Pour ces femmes déjà qui, comme vous l'avez même dit tout à l'heure, qui ont un échec migratoire et qui entrent au pays, et le parcours, il est assez difficile et il est assez traumatisant également, parce que vous savez déjà tout au long du parcours, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de dangers, notamment des violences sexuelles, des violences sexistes. Et ce sont des femmes déjà qui sont encore doublement, disons, vulnérables, parce que non seulement ce sont des femmes, ça c'est un premier facteur de vulnérabilité, mais aussi pour leur état migratoire, là aussi c'est un autre aspect de vulnérabilité. Et donc ces femmes sont exposées à multiples risques tels que les violences sexistes, les violences parfois même discriminatoires, et aussi les violences sexuelles, allant du harcèlement sexuel jusqu'au niveau du viol. Et en plus aussi, il y a les maladies sexuellement transmissibles qu'elles contractent parfois, vu déjà qu'il n'y a pas de structure de santé adéquate ou adaptée pendant ce parcours-là pour pouvoir les prendre en charge. Il y a également les grossesses forcées. Et tout ça, ce sont des risques auxquels ces femmes sont confrontées durant leur parcours.
Et comment vous les prenez en charge en consultation? Comment finalement, docteur Baldé, elles arrivent à vous rencontrer?
Une fois qu'elles retournent au pays déjà, il y a d'autres que nous avons reçus via des organisations qui sont ici en place, ou bien de la bouche à l'oreille, des gens qui disent « bon, il faut aller consulter telle personne parce que nous, c'est là que nous avons vraiment su nous soulager ». Et voilà, avec ça, elles viennent. Et une fois elles arrivent là, d'emblée, elles se lâchent, elles discutent, elles comprennent directement qu'elles avaient déjà besoin de cet espace pour pouvoir parler de leur souffrance. Parce qu'au sein de la communauté, souvent, elles se résignent et elles n'ont pas la volonté ou bien le courage de parler de la souffrance qu'elles ont vécue, parce que tout simplement, elles ont peur que des conséquences de cet aveu, c'est-à-dire la stigmatisation ou encore d'autres aspects qui sont liés à cela. Et donc, à notre niveau, elles se lâchent très facilement, elles comprennent qu'elles ont besoin de se restaurer, c'est-à-dire de reconstruire leur corps Et donc, du coup, pour celles-là aussi qui ont un peu du mal à s'exprimer, nous avons des collègues du même sexe pour pouvoir les écouter et les entretenir. Et facilement, l'entretien est efficace et acceptable aussi, et disons même bénéfique pour elles.
Est-ce que vous avez justement suffisamment de monde, suffisamment d'aide pour venir en aide à ces femmes qui finalement ne trouvent pas d'écoute ou n'osent pas parler au sein de la communauté, mais trouvent chez vous justement cette oreille, docteur Chaïkou Baldé?
Bon, de l'aide, je dirais non par rapport à ces femmes, nous n'en avons pas, mais nous essayons de faire de notre maximum parce que nous sommes les seuls ici en Guinée à intervenir dans ce domaine. Donc du coup, on fait de notre mieux. Nous avons d'autres partenaires dans d'autres exercices, notamment sur les violences sexuelles, donc nous essayons de les insérer à travers ces lignes-là. Mais des aides spécifiques pour la prise en charge de ces migrantes-là, nous n'en avons pas.
Merci beaucoup, docteur Chaïkou Baldé. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute en Guinée, vice-président de l'Association guinéenne des psychologues cliniciens. On retrouve nos invités en studio. Mariama, on entend ces femmes qui sont rentrées chez elles en Guinée. Est-ce que vous, après tout ce que vous avez vécu, à un moment, vous avez pensé rentrer en Côte d'Ivoire?
Là, je pense pas.
Non. Parce que vous étiez partie, vous aviez déjà de gros problèmes chez vous et vous ne pensiez pas être confrontée après à tout ça.
Oui.
Aujourd'hui, vous vivez où? Comment vous en sortez?
Bon, là, c'est difficile parce que je n'ai pas un endroit fixe où je reste. Bon, je sais pas. Je suis dans la main des 115. Bon, actuellement même, on m'a donné 2 jours à Aubervilliers. Bon, on m'échange.
Vous avez de l'hébergement temporaire?
Oui.
Et donc, vous ne savez pas demain où vous dormirez. Pour tout ce qui est des papiers, vous avez quand même une prise en charge pour la sécurité sociale, pour la prise en charge santé, ça?
Si, j'ai la sécurité sociale, oui.
Ça, c'est vraiment aussi un problème, professeur Bouchot. Ce côté administratif, on parlait tout à l'heure des papiers. Mais bien évidemment, la prise en charge santé, c'est aussi quelque chose de très important.
Alors c'est évidemment capital. Je dois dire qu'on a quand même la chance en France d'avoir un accès à la santé pour les personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, et notamment pour les migrants, y compris les migrants qui n'ont pas de papier, qui est relativement favorable par rapport à beaucoup d'autres Européens. Malheureusement, cette situation plutôt très favorable est en train de se fissurer, ça devient de plus en plus difficile, mais c'est absolument fondamental de pouvoir soigner quiconque. On n'est peut-être pas là pour parler du droit à la santé, mais je pense que tout le monde ici, là, est d'accord sur le fait que le droit à la santé est un des droits fondamentaux et que partout où on est, on devrait pouvoir avoir accès à la santé, quand je dis droit à la santé, ça va au-delà de la problématique de l'urgence vitale. Et dès lors que sa santé est menacée, on devrait pouvoir avoir accès à cette santé.
D'autant plus, professeur Bouchot, que quand on entend ces parcours de femmes, on pourrait dire que simplement par raison humanitaire, elles devraient avoir accès à un asile. Quand on a été victime à plusieurs reprises d'agressions sexuelles, quand on a vécu un tel traumatisme, une prise en charge, on ne peut pas être laissé comme ça, sans aide, on ne peut pas être laissé dans la nature.
Absolument. Et ce d'autant que les femmes qui arrivent et qui viennent d'arriver de ces parcours extrêmement traumatisants sont parfois tellement tétanisées qu'elle n'arrive même plus à faire les démarches qu'il faut pour pouvoir avoir accès aux aides qui peuvent leur être proposées. Et comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont encore soumises à des agressions et à l'insécurité arrivée en France, ce qui ne fait que les enfoncer encore un petit peu plus dans cette humiliation et dans cette sordide vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure.
Rose Ngekeng, tout à l'heure avec le psychothérapeute à Conakry, on a évoqué ce retour des femmes qui parlent d'une certaine manière d'un échec, en plus du traumatisme qu'elles ont vécu. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez dans votre association, cette question du retour, ou ce n'est pas une préoccupation des femmes qui viennent vous voir?
Je peux dire que à Ikambéré, ce n'est vraiment pas une préoccupation pour ces femmes. Le fait qu'elles soient déjà sur le territoire français et qu'elles sont bien prises en charge, elles ont les soins de qualité, elles pensent juste obtenir leur titre de séjour et être autonomes. Et c'est ce que Ikambere fait pour ces femmes, les orienter vers les assistantes sociales qui les accompagnent jusqu'à l'obtention de leur titre de séjour. Et nous avions aussi à Ikambere une responsable d'insertion professionnelle. Après l'obtention du titre de séjour, l'assistante sociale l'oriente vers la responsable d'insertion professionnelle avec qui elle échange sur son parcours professionnel. Et en amont déjà, nous menons des ateliers collectifs axés sur cette insertion professionnelle parce que Ikambere, la finalité c'est que ces femmes soient autonomes, que ces femmes prennent en charge leur destin. Et après avoir échangé avec la responsable d'insertion professionnelle sur son projet, alors on lui cherche soit une formation, soit un boulot. Et après ça, un logement par le biais de l'assistance sociale et que cette dernière, elle se sente vraiment libre et de vivre en France. Donc, si je reviens dessus, peu sont celles d'ailleurs, même je n'ai pas entendu certaines dire « je dois rentrer en Afrique » parce que aussi en Afrique, il y a un problème au niveau de la prise en charge. Nombreuses qu'on a écoutées à Ikambere, certaines viennent ici juste parce que il n'y a pas de traitement dans certains hôpitaux, les ARV, il y a la rupture des antirétroviraux. D'autres qui arrivent ici, ce qui est curieux, que elles se retrouvent en train de développer des résistances alors qu'elles ne le savait pas. Donc, la prise en charge pour elle, retourner en Afrique, elles ne le veulent pas. Tout ce qu'elles veulent, c'est de vivre en France, faire de la France leur terre et qu'on prenne soin d'elle et qu'elle puisse aussi apporter à la France leur pierre dans la construction de cette nation qui prend bien soin d'elle.
Mariama, qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller mieux? Vous êtes capable de parler de ce qui vous est arrivé, qui est épouvantable. Vous arrivez à en parler. Qu'est-ce que vous aimeriez pour demain?
Bon, c'est que moi, j'aimerais dire pour demain. Bon, moi, mon problème aujourd'hui, c'est de m'aider, tout comme on dit, on a fait des papiers. À part ça, mes enfants qui sont restés derrière moi, ça c'est...
un poids énorme. Mmh. Et vous avez essayé auprès de la famille d'engager des démarches pour éventuellement envisager un jour qu'ils puissent vous rejoindre? Vous avez parlé de ça avec votre famille?
Bon, ils ne sont pas avec ma famille, ils sont avec une camarade.
Donc c'est quelque chose que vous pourrez envisager après, quand vous aurez des papiers, pour faire un regroupement familial et trouver justement les ressources, une assistante sociale, quelqu'un qui puisse vous aider dans cette démarche pour retrouver votre famille. Voilà. Professeur Bouchot, cette dimension, on va conclure là-dessus. Cette dimension, justement, aussi familiale pour ces femmes, des problèmes de santé maternelle qui peuvent se poser pendant le parcours, à l'arrivée, et aussi la grande vulnérabilité des femmes avec des enfants.
Alors ça c'est clair que... On a dit tout à l'heure que pendant le parcours migratoire, il pouvait y avoir des grossesses et donc des accouchements pendant le parcours. Mais il y a aussi des femmes qui migrent avec leurs enfants, avec toute la souffrance que les enfants peuvent aussi subir, à la fois parce que parfois eux aussi subissent des violences sexuelles et aussi parce qu'ils sont exposés directement à la brutalité, à la violence que l'on peut rencontrer. Et donc, à l'arrivée en France, il va falloir aussi prendre en charge ces enfants qui, eux aussi, ont vécu ces psychotraumatismes et qui vont avoir, eux aussi, énormément de peine à les exprimer et à les verbaliser.
Et notre débat touche à sa fin. Ouais. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une émission en tant que telle sur cette vulnérabilité des enfants lors du parcours migratoire. Merci à vous trois, merci Mariama, merci Rose Gay-Keneg et merci à vous professeur Olivier Bouchot avec donc ce rendez-vous demain à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Notre rendez-vous santé et alimentation sur RFI, on vous retrouve. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Avec une question, hein, qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on est musulman pratiquant et diabétique pour le mois de Ramadan? Comment justement se comporter? Est-ce qu'il faut ou non jeûner?
Alors, c'est une question complexe à laquelle il est vraiment impossible de rendre une réponse simple. Mais il y a deux choses très importantes qu'il faut prendre en compte, que les patients se rappellent toujours. C'est le, la première chose qu'on rappelle à chaque fois, c'est que le jeûne va changer d'une année sur l'autre en termes de temps, en termes de température, en termes de beaucoup de choses. Donc, il va falloir tenir compte de la période. Et la deuxième chose qui est très importante quand on parle de patients qui sont atteints d'un diabète ou d'une maladie chronique, c'est que d'une année sur l'autre ou même d'un mois sur l'autre, les constantes vont changer. Donc, il faut absolument prendre en compte, au moment de préparer le jeûne, le bilan de la personne, comment elle est, dans quel état est sa maladie, j'allais dire, en termes de stabilité. Et c'est vraiment, ces deux constantes restent très personnelles et du coup, ça va nécessiter réellement le besoin d'un avis médical pour pouvoir dire à un moment où est-ce qu'on en est, est-ce que ça va être possible ou pas, ou comment on va le préparer au mieux. Et ça, c'est vraiment très, très important de rappeler ça pour déterminer si le jeûne est possible ou non.
Alors, parmi ces maladies chroniques, on s'arrête donc sur le cas particulier du diabète. C'est quoi, Stéphane Besançon, les risques particuliers, justement, en relation avec cette maladie?
Alors, toutes les études internationales concordent là-dessus. Il y a deux risques principaux, on va dire. D'un côté, alors qui sont en plus antagonistes, d'un côté, l'hypoglycémie, c'est-à-dire le taux de sucre trop bas dans le sang, qui peut amener au coma et à la mort, donc c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et de l'autre côté, ben, complètement l'inverse, l'hyperglycémie qui va amener lui à aussi une autre forme de coma par trop de sucre dans le sang. Et ces deux complications sont pas du tout négligeables, hein, parce que si on prend les grandes études internationales qui ont été publiées dernièrement, on s'aperçoit que les diabétiques, qu'ils soient diabétiques de type 1 ou de type 2, ont entre 4 et 7 fois plus de risques de faire ces complications en termes d'hypoglycémie, c'est-à-dire d'aller jusqu'au coma, et de 1 à 5 fois plus sur l'hyperglycémie. Donc on est vraiment sur un surfacteur de risque pour des complications qui peuvent être très graves. Et enfin, la troisième chose qui existe, alors qui est un peu plus rare, mais qu'il faut quand même citer, c'est qu'en cas, notamment chez les personnes âgées, de déshydratation, on peut avoir un coma hyperosmolaire, qui est un peu compliqué à expliquer, je n'entrerai pas dans les détails, mais qui peut lui aussi avoir des conséquences dramatiques. Donc il ne faut surtout pas négliger ces questions-là quand on est diabétique.
Alors justement, on peut se poser la question, quand on est diabétique, est-ce qu'il existe un moyen de savoir face à quel type de risque qu'on est confronté en fonction justement de notre diabète particulier?
Alors, lors de la consultation médicale, le médecin il va essayer de cartographier le patient. Hein. C'est jamais très joli cette notion de cartographie, mais ça va permettre de mettre une notion de risque. Alors, les premiers patients, on va dire, c'est les patients qu'on va appeler à très haut risque. C'est ceux qui auront eu des complications importantes, qui ont un diabète très déstabilisé. Et ceux-là, en général, le médecin va recommander de pas jeûner du tout, parce que là, il y a vraiment un risque très important et avec une crainte du médecin. Après, on a un deuxième type de patient où le risque est élevé, ils ont eu des complications, mais le médecin va plutôt juger que ça peut être possible, mais à chaque fois aussi en disant bien que si ça, l'état se dégrade, on peut arrêter là de nouveau le jeûne. Et puis la troisième catégorie, on va dire que c'est des personnes atteintes d'un diabète qui est plutôt équilibré, ils n'ont pas de problème particulier, donc eux, ils vont pouvoir, en général, le médecin va leur dire de jeûner sans trop de difficultés.
Alors justement, pour cette dernière catégorie, si le médecin dit d'accord, est-ce qu'il va falloir mettre en place une surveillance particulière?
Alors oui, comme je le disais au début, l'état évolue, surtout dans le cas d'un diabète, donc il faut absolument, le jeûne peut durer longtemps, plus de 3 semaines. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument une surveillance par le médecin, mais aussi par la famille. Au cas où la situation se dégrade, il faut là aussi le rappeler que le Coran permet d'interrompre le jeûne et qu'il faut absolument pas aller jusqu'au bout, quitte à prendre des risques. Donc, surveillance obligatoire par le médecin, mais aussi par les proches. Et en cas de complications, arrêter le jeûne pour éviter toute survenue tragique de coma ou même qui peut aller jusqu'à la mort.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Demain, nous ferons le point sur l'épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit depuis près d'un mois maintenant en République démocratique du Congo. Vos témoignages, vos questions, notre numéro 33 84 22 75 75 et bien sûr notre page Facebook. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.